Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto, Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 21 novembre 2020. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
96e épisode du Guide de l'auto sur Cube Radio. Hein?
Tranquillement, on se rapproche de la 100e bougie.
Exactement. Une annonce qui ne surprendra personne pour commencer l'émission cette semaine, mais le Salon international de l'auto de Montréal a finalement annoncé le salon virtuel qui devait avoir lieu et pour lequel on avait fait une entrevue avec Denis Dessureau.
Effectivement.
Aura finalement pas lieu, c'est annulé. C'est un projet dans lequel les constructeurs n'ont pas embarqué.
Exactement. Il n'y a pas eu d'engouement là, de la part des manufacturiers, ce qui est dommage parce que, bon, on aurait pu tenter l'expérience, mais ça n'a pas levé. C'était très embryonnaire quand Denis Dessureau était venu nous présenter l'idée. Et on l'aura essayé, mais c'est ça. Ça ne verra pas le jour. Et c'est la même chose pour le Salon de l'auto de Toronto. Pas de salon virtuel, finalement. Donc, on se revoit en 2022.
On se revoit en 2022. Écoute, je t'avoue qu'on écoutait les arguments, on écoutait les idées des
organisateurs. J'avais pas d'étoiles dans les yeux, là.
Moi non plus. Je me demandais vraiment quelle espèce de lapin on allait sortir du chapeau pour faire en sorte que ce soit un événement attrayant. Je pense que les constructeurs automobiles ont eu un peu la même vision que moi parce que...
Et même pour tous les marchands, autres que les manufacturiers automobiles qui sont présents au Salon de l'auto, la formule qui était proposée n'était pas aussi emballante que celle d'être au Palais des Congrès.
Non, c'est bien sûr, bien évident.
C'était un peu difficile.
Bon, chaque fois qu'on dévoile une nouvelle Honda Civic, c'est un événement.
Oui.
On l'a fait cette année sur Twitch. En fait, on l'a fait cette semaine. Et Germain, comme je le disais la semaine passée, c'est ça, Twitch?
Ben, c'est une plateforme. Hein, c'est une plateforme numérique de diffusion en direct, de streaming aussi. Donc, on a dévoilé le prototype. Hein, de la Honda Civic.
Très réaliste prototype de la Honda Civic.
Oui, elle est prête à arriver chez les concessionnaires quasiment. Là. On est loin d'un modèle en argile. Et donc, le modèle de 11e génération qui ressemble énormément à la Accord actuelle. Ouais. Puis oui, effectivement, c'est très évolutif comme design. On n'a rien mentionné pour ce qui est de la motorisation, des détails
techniques.
C'est-à-dire
oui et non, parce qu'on a quand même mentionné qu'une version Super reviendrait sur le marché, qu'une version SI reviendrait sur le marché. Donc, on aura droit à deux versions un peu plus performantes. Et moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a confirmé le retour de la version hatchback. Et moi, j'avais peur que l'hatchback disparaisse parce que, bon, Elantra, c'est disparu. La Golf s'en va. Les voitures...
Les compacts à haillons, c'est plus... Les belles années sont derrière nous, là.
Mais, tu vois, Toyota a relancé la Corolla hatchback après des années et des années d'absence.
Ouais.
Et ça fonctionne relativement bien pour eux. Alors, Honda a décidé de continuer dans cette voie-là, mais le problème, c'est qu'on fabriquait la Civic Hatchback du côté de l'Angleterre, et c'était une voiture qui était rendue pratiquement plus viable financièrement à vendre, surtout par rapport à berline qui est fabriquée chez nous. Et ça demeurera le cas, c'est-à-dire que la berline va continuer à être fabriquée à Alliston, en Ontario. Quant à la version Hatchback, la production sera rapatriée du côté des États-Unis, ce qui va finalement faire en sorte qu'on va pouvoir avoir cette voiture-là à prix plus compétitif que par le passé ou même en ce moment. Parce que, tu vois, je faisais des exercices de comparaison entre une Civic 2020 hatchback actuellement et une GTI ou une Mazda 3 GT à traction intégrale.
Puis c'est pas intéressant.
Et seigneur, la Civic n'a pas l'avantage.
Et pourtant, le modèle est en fin de carrière.
Oui, le modèle est en fin de carrière, mais c'est une voiture coûteuse à importer.
Ouais.
Les taux d'intérêt location sont plus élevés. Alors, il risque d'avoir un nouveau souffle, mais on n'a pas vu la version hatchback, on a vu que la version berline qui conserve...
Et le coupé, lui, hein,
coupé, ça disparaît.
Exactement.
Coupé, ça disparaît. Donc, on ne sait pas s'il y aura, par exemple, des rouages intégrales, on ne sait pas s'il va y avoir de version hybride, on n'a rien de ça.
Tout est encore à annoncer.
Et Honda nous donne, est tellement généreux dans l'art de nous fournir l'information que...
C'est très opaque comme communication, donc une étape à la fois.
On va parler moteur maintenant parce qu'on en a mis tout un sous le capot du Jeep Wrangler. C'est-tu logique de mettre un V8 de 392 pouces cubes dans un Jeep Wrangler?
C'est audacieux, ça c'est absolument certain. Dans les derniers mois, le Ford Bronco a été dévoilé. Il a eu toute la lumière de tous les projecteurs de la planète, j'ai l'impression. Et le Wrangler, qui est finalement seul hein, sur son marché, voulait probablement faire parler de lui et continuer de plaire à une clientèle en se renouvelant. Donc, on ajoute le moteur EMI 6,4 litres sous le capot du Wrangler dans sa version Rubicon. Hein, seulement, c'est important de le mentionner, Rubicon à quatre portes parce que dans un Wrangler à empattement court, ça serait du sport, pas à peu près EMI, c'est ça. Donc, 6,4 litres, 470 chevaux, autant de livres pieds de couple.
Mais c'est lourd là, dans un Jeep Wrangler, oui, un moteur comme celui-là.
Ça va lui faire un museau très, très, très pesant. Déjà, en termes de tenue de route, tu sais, sur une route, là, pas en hors-route.
Est-ce que
tu
es capable d'appeler ça comme ça, d'une tenue de route?
Tenue
de route et Jeep Wrangler dans la même phrase.
Oui, c'est ça. Les gens ne le voyaient pas, mais j'utilisais les guillemets. Là. Ouais. Donc, ça va être très particulier à conduire. Ça devrait avoir une belle sonorité, hein, franchement. Donc,
D'autant plus que c'est pas la machine la mieux sonorisée de la Terre. Là,
Non. Mais tout ça pour dire qu'on va avoir une gamme de moteurs très, très, très étendue parce que on a le 4 cylindres turbo, le V6 Pentastar, le moteur éco-diesel, une version hybride enfichable qu'on attend encore.
Oui, et que j'aurai la chance de conduire au milieu du mois de décembre, la version 4XE. Ouais.
J'ai hâte de voir ce que ça a proposé, cette version-là. Alors, je pense que c'est un signe que le Wrangler est un véhicule qui est, oui, populaire, mais aussi rentable là, pour la marque Jeep. Quand on sort des versions qui ne finissent plus, finalement, c'est que ça amène de l'eau au moulin. Là.
Puis j'en parlerai un petit peu plus tard, mais un Wrangler hyper équipé, on chevauche les prix de véhicules de grand luxe. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai mis le pied à bord du Land Rover Defender 110.
Ouais.
Je vous en parlerai un peu plus davantage la semaine prochaine. Mais écoute, les prix du Defender et de certains Wranglers se comparent. C'est vous dire à quel point la facture peut grimper de façon alarmante avec un Wrangler.
Un Wrangler Rubicon à moteur Pentastar, on est à 70 000, là.
Donc, rajoute le diesel ou ton EMI, quelques accessoires.
On va être à 80, là.
Imagine-toi, c'est quand même de l'argent.
C'est des sous pour un Wrangler, là.
C'est surtout très, très, très lucratif pour la compagnie.
Parce que c'est pas un nouveau moteur qu'on a développé. Hein? On a ça sur les tablettes, là, ce moteur-là.
Belle nouvelle qui est sortie cette semaine pour la BRZ, on l'attendait, là.
Oui.
Pour moi, c'est le fun parce que je la trouve magnifique, cette nouvelle BRZ de deuxième génération qui se faisait attendre depuis longtemps parce qu'écoute, ça faisait 8 ans que la voiture était à peu près identique et on a toujours critiqué le fait qu'il manquait un peu de puissance sous le pied droit. Semble qu'on règle en partie le problème.
On lui a injecté quelques chevaux supplémentaires, donc on passe de 205 à 228.
Mais avec un moteur qui a une plus grosse cylindrée, c'est ça la bonne nouvelle.
Exactement,
pour moi.
Parce que le moteur de la version actuelle, finalement, c'était un 4 cylindres, oui, mais de 2 litres. Et là, on passe à 2,4 litres. Donc,
mais dis donc, Germain, d'où vient ce moteur?
Est-ce que ce serait, par exemple, celui qui a été introduit d'abord dans l'Ascent, auquel on aurait retiré la turbocompression? Il y a bien des chances.
Est-ce qu'on pourrait éventuellement ajouter un turbo à ce moteur, Germain?
Ce serait une excellente idée. Hey, donc, avis aux planificateurs de produits chez Subaru.
D'après moi, ils ont déjà pensé.
Au lieu de retirer, au lieu d'enlever ce qui est déjà là, laissez-le là, c'est-à-dire le turbo. Et là, ça serait...
Oui, mais c'est là, on n'a pas les prix, les détails, mais on va arriver avec une BRZ qui va probablement chevaucher les 30 000 $ comme modèle d'entrée de gamme. Puis, éventuellement, on arrivera avec une version turbo qui va se vendre à 40 000. T'sais, ça va ressembler à quelque chose de même, équipé. On va peut-être pouvoir jouer un peu plus là-dessus. Par contre, on a On n'a pas de détails sur la possibilité d'une version décapotable. Et ça non. aussi, il y a eu beaucoup de rumeurs à une certaine époque.
Réalistement, ça avait peu de chances de voir le jour. Là.
Je m'excuse, mais c'est la voiture qui serait capable d'aller rivaliser avec la MX-5.
Ben oui, oui, oui. oui.
Maintenant, est-ce qu'on veut le faire?
Ben c'est ça. J'ai l'impression que chacun a son créneau. Puis ce serait beaucoup de travail pour ce que ça pourrait rapporter finalement en dollars. Là.
Ben à l'échelle mondiale, je pense que c'est quand même une voiture qui pourrait avoir un certain succès. Mais par contre, vendre un 2,4 litres sur des marchés européens, c'est coûteux.
Effectivement.
C'est plus ou moins évident.
Et bonne nouvelle, on garde la boîte manuelle.
Oui, j'espère.
Non, mais tu sais, il n'y a plus rien qui va m'étonner, moi.
Non, je sais bien.
Donc,
t'es sûr? OK, parfait.
Ben, pas loin.
Bon, on a dévoilé cette semaine sur le site du Guide de l'Auto les véhicules de l'année pour chacune des catégories. Alors, on vous invite à aller consulter ça.
Voiture de l'année, hein, Polestar 2, qui est une belle surprise pour pas mal tout le monde. À part Denis Duquet, qui nous en parlait peut-être pas nécessairement bien la semaine dernière.
Qu'on salue.
Mais c'est correct. Hein, chacun pense ce qu'il veut bien. Donc,
Autant la Polestar est une voiture qui m'a impressionné, autant je me demande, après avoir conduit le XC40 Recharge, qui est basé directement sur cette voiture-là, comment on va réussir à en vendre. Et c'est une question quand même qu'il faut se poser parce que, bon, je vous donne l'exemple, une Polestar part à 69 900, on ne peut pas dire 70 000.
Ouais.
Le XC40 Recharge, qui utilise la même technologie, c'est 5 000 $ de moins. Donc, vous avez un VUS plutôt qu'une voiture qui coûte 5 000 $ de moins, qui a la même puissance, la même autonomie, le même niveau d'équipement, qui a un look assez intéressant aussi. La Polestar se démarque à ce niveau-là également, mais c'est la même plateforme, la même technologie. Il n'y a pas de plus-value chez Polestar versus chez Volvo. Donc, vous économisez 5 000 $ chez Volvo. En plus, vous avez déjà accès à un réseau de concessionnaires parce que c'est déjà en place ce que Polestar n'a pas, parce que Polestar part de zéro.
Mm-hmm.
Alors, pourquoi moi, demain, j'irais m'acheter une Polestar, outre pour le fait que je serais tombé en amour avec le look de la voiture.
Ouais.
On s'entend que c'est niché, là. Alors, j'ai hâte de voir...
C'est pas facile.
J'ai vraiment hâte de voir comment Polestar va se défendre. D'autant plus qu'en parlant avec les gens de Volvo, on me disait à l'oreille que c'est pas impossible qu'on travaille une version peut-être un peu plus dénudée qui pourrait être vendue sous la barre des 60 000 $, ce qui permettrait à Volvo d'avoir un XC40 Recharge éligible au crédit gouvernemental provincial de 8 000 $.
Donc, et là ça deviendrait franchement intéressant.
Le 60 000 devient 52, en fait 53, là. Considérant les taxes incluses. Bon, alors, ça commence à être pas mal plus intéressant. Puis, on rentre directement dans les dents du modèle Y avec ça. Évidemment, avec moins d'autonomie, parce que l'autonomie est à 335.
Avec une construction un petit peu plus solide, là.
Écoute.
Et un raffinement qui était un peu plus présent.
On reviendra pas là-dessus.
Non. Sinon, rapidement, dans les véhicules utilitaires, ben, sans grande surprise, c'est le Toyota RAV4 Prime.
Ouais.
Et dans les camions de l'année, finalement, c'est une grande famille. C'est les nouveaux utilitaires. À pleine grandeur de chez GM. General Motors.
Ah ouais, de GM. Alors, salutations à Daniel Breton, à qui on parlera dans quelques instants.
De véhicules un peu moins polluants que ces mastodontes.
Oui, parce que bien que ces véhicules-là soient très impressionnants pour l'ensemble de l'œuvre, la déception, et ça, on n'en parle pas beaucoup.
Ouais, c'est qu'il n'y a pas d'hybride.
Ben, un, puis deux, ils consomment plus que la génération précédente.
Ouais.
Les cotes de consommation sont supérieures à celles du modèle de précédente génération. Alors ça...
C'est rare pour un véhicule qu'une génération plus récente consomme plus que la précédente.
Oui, c'est ça, avec une motorisation qui est similaire.
De nos jours, là, d'habitude, c'est le phénomène inverse qu'on observe.
Oui, c'est ça. Germain, véhicule de la semaine, tu vas nous parler de ton Jeep Gladiator que tu es allé conduire en Gaspésie.
Oui, grand périple. Hein. Je suis parti de Montréal pour me rendre jusqu'au bout de la Gaspésie dans un véhicule très, très, très confortable et très, très, très insonorisé.
Comment va ton dos?
Ça va. Okay. Pour vrai, le support des sièges est là. Ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment le véhicule qui est flou, hein, finalement, sur la route. Tu dois toujours corriger. Et c'est une version Mojave, hein, et donc avec des pneus plus grands, des suspensions conçues pour le hors-route. C'est très, très, très sensible au vent.
Mais c'est un super beau jouet.
C'est un jouet incroyable. Vraiment, tu as l'impression de de pouvoir aller finalement n'importe où. T'as un sentiment de supériorité sur la route avec ce camion-là. C'est un Tonka, c'est un jouet. Trouve le mot que tu veux. C'est vraiment une bébelle incroyable. Boîte manuelle.
C'est solidement construit quand même.
Pour vrai, j'ai l'impression que c'est capable d'en prendre, là.
Ouais.
Vraiment, vraiment.
Ouais, ouais.
La version que j'ai conduite était équipée de la boîte manuelle. Mm-hmm. Puis comme je t'en avais glissé un mot cette semaine dans notre live Facebook, et j'en fais la confidence aux auditeurs ici, c'est peut-être pas ce que je choisirais comme boîte. Je pense que je prendrais l'automatique. Parce que... Je sais qu'il faut en profiter.
C'est
là,
tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs.
Non, mais je sais qu'il faut profiter des boîtes manuelles pendant qu'elles sont encore présentes, mais franchement, dans le Gladiator, j'ai l'impression que ça n'apporte rien.
Ben, c'est son côté hardcore, c'est le côté
voilà.
Puriste.
C'est comme ça qu'il faut le voir.
Ouais.
Mais chose est certaine, essayez le véhicule là, si c'est ce que vous voulez acheter, parce que vous pourriez finalement réaliser que la version à boîte automatique... Ben, ça fait le travail et ça répond aux besoins. Donc,
Et ça risque de mieux se revendre aussi le jour où vous voudrez
peut-être,
la vendre.
Ouais, peut-être.
Mais enfin, bref.
Mais tout ça pour dire que c'est un camion incroyable, vraiment. Mais et on finit par oublier ce défaut.
Oh, c'est à partir du moment où tu comprends à qui t'as affaire.
Voilà. Donc, les cartes sont très claires là, sur la table.
72 000 $?
Oui, on est au-dessus de 70 000.
C'est un bon deal.
Encore là, ça reste beaucoup de sous, mais voilà.
Ben, t'en veux-tu beaucoup de sous? Alors, moi, j'ai deux véhicules qui avoisinent les 100 000 $ à te parler aujourd'hui. C'est pas des farces, on est rendu là. Alors, le premier, c'est un Ford F-150. Tiens-toi.
Oui.
Ford F-150 Limited.
2021.
2021, avec la motorisation Power Boost, qui est une 6e motorisation. Alors, je vais vous les énumérer en rafale. V6 de 3,3 litres, V6 2,7 litres EcoBoost de 325 chevaux, le V6 de 3,5 litres EcoBoost puissance majorée à 400 chevaux. Même chose pour le V8 de 5 litres qui fait 400 chevaux également en 2021. On a le moteur Power Stroke 250 chevaux, donc 3 litres diesel, 250 chevaux, 440 livres-pieds de couple, qui est une motorisation pour moi très intéressante. Et finalement,
vous écoutez toujours, il y a une version hybride qui s'ajoute.
Exactement. Alors, Power Boost, qu'est-ce que c'est? C'est une version hybride 100%. Puis je dis 100% parce qu'on se souviendra que GM avait amené ce qu'on appelait des mild hybrids il y a une dizaine d'années dans ses camions Silverado Sierra.
Un franc succès.
Ouais, c'est ça. Ben écoute, pour l'époque, honnêtement... Oui. Tu consommais quand même pas mal moins que les V8 qu'on proposait traditionnels. Sauf que tu n'avais plus de capacité de remorquage, tu n'avais pas de capacité de charge, il y avait beaucoup d'handicap. Puis on a retiré ça du marché assez rapidement dès qu'on a amené des transmissions un peu plus modernes pour compenser. Sauf que là, on a une motorisation hybride qui, selon Ford, peut faire en sorte qu'on a une consommation d'essence équivalente, carrément équivalente à celle du moteur diesel Power Stroke, mais avec une puissance de 430 chevaux et 570
Ça, c'est énorme, là.
C'est très, très puissant. Honnêtement, j'ai conduit le véhicule. D'abord, bravo pour la transition. C'est-à-dire que tu roules en mode électrique et tu passes au mode à essence et tu le sens à peu près pas. C'est très linéaire comme transition. Alors ça, c'est la technologie est intéressante. C'est drôle parce que quand tu roules en mode électrique, il y a une espèce de sonorité très curieuse que tu entends là-dedans, mais ça demeure un camion vraiment impressionnant pour la puissance. Est-ce que je peux te dire que je sens que c'est vraiment beaucoup plus performant que le V6 3.5 EcoBoost traditionnel? Difficile à dire, mais dans l'ensemble, c'est un camion qui m'a vraiment impressionné, mais je n'ai pas réussi à aller chercher les codes de consommation qu'on avait annoncés. Il faisait moins 5 degrés, puis j'ai fini à 12.7, 12.8.
Moins 5, là, on n'est pas dans une tempête à moins 20, là.
Fait qu'on n'est pas à 9.8 comme on annonce, mais toujours est-il que pour ce que le camion est capable de faire, c'est pas pire. Puis on annonce une capacité de remorquage avec cette version-là à 12 700 livres, 14 000 livres si tu t'en vas dans un 3.5 EcoBoost et une capacité de charge de 3 250 livres.
Okay.
Là, on a ajouté, nouveau poste de conduite, là, le temps nous manque, là, mais nouveau poste de conduite, nouvelle console, super bien pensée, l'écran de 12.1 pouces, beaucoup mieux fait que dans le RAM, le panneau arrière, le battant arrière, pour ne pas dire la tailgate, Gate, ben on a intégré une planche de travail là-dessus avec des tableaux de mesure. Vous pouvez brancher des accessoires sur le 240 volts dans la caisse. Bref, on a pensé à tout, mais le camion que j'ai conduit était 95 575 $. Alors, quand même pas
ça
donné.
Ça fait mal.
Et l'autre véhicule que j'ai conduit qui avoisine les mêmes prix, on est à 103 000 $, c'est le GLE 53 AMG de Mercedes. Je trouve que c'est un camion magnifique. Au look, on l'a réussi. C'est le plus beau ML ou GLE, appelez ça comme vous voudrez, qu'on a fait. Mais j'ai été un petit peu déçu. Tu vois, j'ai roulé 600 km avec le véhicule. C'est une version hybride aussi. Mm-hmm. Donc, une hybridation qui pour la performance. Ça fait 429
EQ
chevaux.
EQ Boost, hein?
Oui, c'est ça. Exactement. Donc, ça fait 429 chevaux pour une consommation moyenne combinée de 11,6 litres au 100 pour un véhicule qui est très rapide là, et qui se compare à un BMW M50i, par exemple, là, okay. X5, en termes de performance. Ça va bien. Je peux pas dire que la qualité de fabrication m'a déçu parce que c'était le cas de certains autres produits Mercedes que j'ai conduit récemment. Alors, un camion très solide, très belle présentation. Je me suis beaucoup familiarisé avec le système MBUX de Mercedes, donc
oui.
C'est gros écran tactile.
Franchement, j'ai eu un gros coup de foudre, moi, pour
ce système-là. Je l'ai étudié pas mal et j'aime bien, honnêtement, c'est vraiment bien fait.
Ouais.
Mais tu passes ton temps à corriger. Les pneus sont très larges, puis la direction, elle ne revient pas d'elle-même. Il faut que tu te battes avec un peu, puis c'est le point qui m'a vraiment déçu. C'est la direction de ce camion-là, mais sinon, quand même, une machine assez impressionnante. Alors, voilà. Puis écoute, au retour, rapidement, on parle de ma chronique en fin d'émission, c'est-à-dire on va parler de ma chronique sur
les minounes,
parce que ça commence à être un sérieux problème.